Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Simon Dutin, Jérôme Pinault et Julien Beneteau. On est comment au départ de Paris-Roubaix avant de prendre le départ, la départ à 10h50?
Écoute, c'est la seule course de l'année où tu as peur.
Ah ouais,
tu as peur d'avoir mal, tu as peur de te faire mal, surtout quand tu as jamais fait Paris-Roubaix et que tu arrives sur les recos, et notamment dans la trouée d'Arambert. La trouée d'Arambert, les gars, faut savoir un truc, c'est que la personne lambda qui arrive à l'entrée de la trouée, elle va pas en vélo, elle dit ça passe pas en vélo. C'est l'enfer du Nord, ça porte très bien son nom. Et cette trouée fait peur.
C'est le pire secteur, la trouée d'Arambert?
Alors à l'époque, il n'y avait pas la chicane. Hein. On arrivait à 60 à l'heure là-dedans. Et franchement, j'ai souvenir de l'avoir fait. Enfin, je l'ai fait deux fois. Et les deux fois, je me suis dit, vivement qu'on en sorte.
Voilà, il y a plusieurs secteurs clés, hein, comme le carrefour de l'Arbre, évidemment, sur le final.
Le carrefour de l'Arbre, c'est pas mal aussi, mais la trouée, c'est la pire.
Voilà, vous savez que les secteurs pavés sont classés par catégorie. Hein. Voilà, il y a des secteurs 5 étoiles qui sont les plus difficiles. Vous allez l'entendre tout au long de l'après-midi, bien sûr, avec Christophe Cessieux, avec Jérôme Coppel et Maria Azé. Au commentaire, vous retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast. On a déjà parlé largement de l'enfer du Nord. D'ailleurs, LeBron James, dont je parlais tout à l'heure, sur sa vidéo, je lui ai laissé un petit message pour lui dire qu'il était le bienvenu au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424, hein, s'il peut participer. Donc restez avec nous, parce qu'à tout moment, voilà, le King peut arriver. Et bon, on en vivra un grand moment d'antenne.
Bon courage, hein, s'il va sur les pavés LeBron.
Ouais. Oh, bah, franchement, physique de Flandrien quand même. LeBron, non,
faut un peu pédaler costaud, quand même sur
costaud.
Les pavés.
Ah, je le vois bien. Je pense qu'il passe sur le haut du pavé, quoi. Il faut pas qu'il aille sur le côté.
Tombe de haut aussi.
Dans un instant, on va parler de Paul Sexas. Punchline, il assume de faire partie des meilleurs après sa victoire autour du Pays Basque. Est-ce qu'il prend un risque avec cette com? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez aujourd'hui une enceinte portable minotée au design épuré de la marque française Lexon, qui peut se transporter partout, Bennett, grâce à son mousqueton intégré, figure-toi. Pour remporter votre enceinte Lexon, appelez le 32-16 touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Toujours important d'avoir un mousqueton avec toi si jamais tu
intégré,
voilà, ouais. Si t'as envie de partir dans un délire d'escalade d'un coup, voilà, toujours être prêt. Mais d'abord, sur le ring, c'est notre grand rendez-vous de la journée du rugby, quart de finale de Champions Cup à 16h au stade Chaban-Delmas. UBB Stade Toulousain, le classico moderne du rugby français, se joue, attention, dès la première seconde.
RMC, le ring des GG.
De Chuck Carberry pour reporter peut-être le score à 56-15.
Tout de suite, là. Ah ben, ça a commencé.
Il essaie de brosser ce ballon, ce sera complètement à droite, on en restera là.
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Victoire du Stade Toulousain.
Aïe, aïe, aïe. On va tout casser, là. C'est la décennie bague, là.
Non, mais c'est
56 à 13.
Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Il n'y a pas vraiment eu de match.
Le derby de la Garonne. Mais après, Toulouse, c'est la capitale du rugby.
Vraie rivalité, mais je pense qu'on peut le terminer fort.
Le Stade Toulousain a gagné.
Le Stade Toulousain est champion de France, cette génération. Inarrêtable, le triplé pour Toulouse, victoire 39 à 33, le Stade Toulousain est le roi.
Ce sont nos meilleurs ennemis du rugby français actuellement, avec des armadas d'internationaux des deux côtés. Bordeaux avec, bon, je vais en citer quelques-uns, Bielbiarré, Jalibert, Penaud, Moefana. Toulouse avec Dupont, Rameau, Saint-Amac ou Flamand. Depuis 2021, l'UBB et Toulouse se sont affrontés à très haute altitude à 5 reprises. 2 demi-finales et une demi-finale du top 14 dominée par les Toulousains. Sur les 2 demi-finales de Coupe des Champions, seule une a été remportée par Bordeaux. C'était l'an passé, Bordeaux tenant du titre de la compétition. Les GG, je vous pose la question ce matin. Le Stade Toulousain a-t-il encore un ascendant sur l'Union Bordeaux-Bègles? Vous votez sur le compte XD Grande Gueule du Sport et vous dites pour l'instant oui à 62% comme Pascal, Simon et Jérôme, non à 38% comme Bennett. Vous changez votre
Après
vote.
Après consultation des grands spécialistes rugby, je vais changer d'avis.
C'est vrai?
Ouais, je vais défendre le non.
Tu dis non?
Ouais.
D'accord. Tu nous diras ce qui s'est passé. T'as eu Denis Charvet au téléphone?
J'ai eu Denis Charvet au téléphone.
On vous attend au 32-16, évidemment, bah, supporters bordelais et toulousains, évidemment, sur WhatsApp au 06-12-424-424. Wilfried Templier, notre voix du rugby sur RMC, va commenter la rencontre cet après-midi en direct de Chaban. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Wilfried.
Salut Will.
Salut.
Comment les deux équipes ont parlé l'une de l'autre cette semaine, Will?
avec pas mal de respect, on va le dire comme ça, mais un constat pour le manager toulousain Hugo Mola, que cette rivalité tire ces deux équipes vers le haut.
Ces rivalités sont toujours nécessaires pour le sport de haut niveau. Ces rivalités, elles amènent évidemment des performances, mais aussi des surdépassements ou des dépassements de choses qu'on pourrait croire comme établies. Donc oui, on va se surprendre d'une manière ou d'une autre. J'espère nous un peu plus qu'eux. Évidemment, il y a un bout de connaissance et d'adaptation permanente où je pense que quand tu es leader, ce qu'a été Bordeaux l'an dernier en Champions Cup, eh ben, elle a très certainement permis au Stade Toulousain de se remettre en question et en situation. Et puis quand tu es leader, comme on l'a été pendant longtemps, à l'image de la finale, notamment l'an dernier, ça permet aussi à Bordeaux d'évoluer.
Et oui, comme l'UBB a perdu 4 des 5 matchs de phase finale face à Toulouse, mais a été champion d'Europe l'an passé, l'UBB a évidemment évolué en bien, selon le manager de l'autre côté cette fois-ci, de Bordeaux, Yannick Bru.
C'est vrai que t'es un outsider, je dirais, il y a 2 ans et demi. Depuis, on a fait un petit peu de chemin, on s'est croisé certaines fois et j'ai l'impression qu'on est devenu un outsider crédible. Ça veut dire aussi qu'on est pris au sérieux, c'est bien. Ça veut dire que l'UBB progresse, que l'UBB évolue aussi sur ses points faibles et qu'on est toujours reconnu aussi pour certains points forts.
Côté joueurs, c'est l'entente cordiale. Sachez que 36 des 46 joueurs, c'est un chiffre énorme, hein, qui seront sur la feuille de match tout à l'heure, ont connu au minimum une sélection depuis que Fabien Galthié est à la tête des Bleus. Donc pour le deuxième ligne toulousain, Thibaut Flamand, pas vraiment d'animosité entre les deux camps.
C'est des mecs qu'on croise aussi en sélection, qu'on apprécie. Et du coup, non, c'est plus, ouais, c'est le parfum des gros matchs, quoi. Plus qu'une rivalité vraiment d'identité, de caractère. Pour moi, c'est plus, voilà, un gros match contre un autre gros club français qui tourne bien aussi depuis quelques temps.
Du coup, pour la mauvaise foi et la rivalité, bah, on va se tourner vers les supporters, où là, c'est un peu plus tendu, avec les ambitieux bordelais.
C'est le match qu'on attend. Je pense que tout le monde est chaud et on a atteint le pied ferme. Charbon sera prêt.
Encore une fois, cette année c'est pour nous.
Les rivalités, mais je pense qu'on peut les terminer fort. On a le mental et le niveau.
Et les toujours confiants supporters toulousains.
Toulouse, c'est la capitale du rugby. On sera toujours au-dessus. Eux, ils vendent du vin et nous, on soulève le bouclier de la Coupe d'Europe.
On est meilleurs, c'est tout.
On sent qu'il y a une rivalité qui monte de plus en plus sur le sportif, mais aussi en tribune. Mais bon, quand même, à Toulouse, c'est un peu plus le vrai rugby, quoi.
Alors ça, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça nous promet du folklore cet après-midi au Stade Chabandais.
Merci, Will. Tu restes avec nous. On a la punchline de l'année, là, quand même. Hein. Eux, ils vendent du vin, mais nous, on soulève le bouclier. Est-ce que le Stade Toulousain a encore un ascendant sur l'UBB? Pascal, toi tu dis oui.
Oui, il faut quand même saluer le travail d'un ancien joueur toulousain, Yannick Bru, et du président Laurent Marty, parce que l'UBB aujourd'hui c'est un concurrent, un réel concurrent du Stade Toulousain, mais même si l'UBB regarde le Stade Toulousain dans les yeux, cette nouvelle version du club bordelais, donc c'est depuis seulement 2007 je crois qu'il y a eu la fusion des deux clubs, entre Bègles et le Stade Bordelais, ben, n'ont jamais été champions de France. Or, dans ce laps de temps, Toulouse a été de nombreuses fois champion de France. 26 fois, je crois. 24 fois. 24 boucliers de Brennus dans l'histoire du Stade toulousain.
Ça pèse.
Donc, ça pèse beaucoup. Et surtout que le Stade toulousain est, quoi qu'on en dise, le club référent en Europe même. Il faut savoir que ce club-là, dans son antre, dans sa formation, ce sont que des anciens joueurs qui sont à la tête des équipes de jeunes. Il y a un véritable savoir-faire.
Une culture de la gagne qui se transmet, en fait, tu veux dire.
Cette culture, cette force de l'habitude, elle est rongé par l'UBB qui gagne du terrain, et Yannick l'a très bien dit, ça, depuis 2021, mais n'est pas encore au niveau du Stade Toulousain.
Non, voilà. C'est la raison pour laquelle... l'histoire et de l'institution. Alors, comme on peut l'avoir avec le Real Madrid en
absolument.
Par exemple.
Et puis Pascal, tu dans les confrontations et dans celles qui vont avoir lieu cet après-midi, il y a une différence entre est-ce que sportivement Toulouse est encore un peu au-dessus et avoir un ascendant. Et moi, je pense que effectivement. C'est la question à laquelle j'ai mis le plus de temps à te répondre hier, parce que je pense que sportivement Toulouse doit être encore un peu au-dessus, certainement, avec tout ce qu'il y a derrière et le travail sur la durée. Mais en revanche, il n'y a plus de complexe d'infériorité de la part de l'UBB. Ah oui, comme tu le dis, Pascal, je pense qu'ils se regardent en face.
Une parenthèse.
Ils n'ont pas la peur d'aller jouer contre Toulouse.
C'était la demi-finale l'année dernière, gagnée par l'UBB, se joue à domicile. L'avantage du terrain est conséquent en rugby. Et encore une fois, cette année, ça se joue à Bordeaux.
Et la finale sur terrain neutre, okay. Et la finale, Toulouse n'a pas écrasé la finale l'an dernier.
Prolongation, etc. Non mais, enfin, là,
enfin,
pour répondre à la question, c'est sur le match de cet après-midi. Est-ce qu'il a un ascendant? aujourd'hui, enfin je sais pas, je parle sous le contrôle de Wilfried, et j'ai pas regardé les codes des bookmakers, etc. Mais c'est du 50-50. Vous croyez que Jalibert, il pense que Toulouse, ils ont un ascendant sur lui cet après-midi à Chabordel?
Non,
35 000, non. Que l'histoire.
Non, mais ils peuvent être marqués par
des confrontations
passées.
Mais ça, c'est l'histoire.
En top 14, par exemple.
Mais sur un match comme ça, il n'y a pas d'ascendant. Vous me parliez du Real de Madrid qui a le poids de la victoire. Mais c'était qui les favoris contre le Bayern Munich la semaine dernière? Évidemment, c'était le Bayern. Parce qu'ils sont meilleurs sportivement. Aujourd'hui, sportivement, sur cet après-midi.
À l'instant T.
Oui, Toulouse est très très fort. Bordeaux est très très fort. Mais ils jouent à la maison. C'est du 50-50. Et ils ont pourquoi ils ont moins l'ascendant? Oui, ils ont gagné le championnat de France à Toulouse. Et j'adore le Stade Toulousain. Parce que j'adore leur organisation. J'adore tout ce qu'ils font, etc. J'adore Hugo Mola. Ils ont gagné le championnat après prolongation. Mais l'année dernière, en Coupe d'Europe, ils en ont pris une belle quand même à Bordeaux. Donc. Sur le match de cet après-midi, pour moi, c'est vraiment
les forces. Les paris RMC, c'est à midi tout à l'heure, mais tu parlais des cotes chez notre confrère Winamax. 1,76 la victoire de l'UBB, favori 1,98 voilà. La victoire de Stade Toulousain. Mais ça joue pas grand chose.
L'avantage,
Simon.
Ils sont favoris.
Déjà, si on parle de sur le match d'aujourd'hui, encore une fois, Bordeaux-Bègles va regarder le Stade Toulousain droit dans les yeux. Il faut savoir que c'est un antagonisme qu'on pourrait dire sympa, et les joueurs l'ont confirmé, les managers ils le disent, mais bon, il y a aussi une rivalité, Mola et Bru, croyez-moi, ils se tirent la bourre, hein. Donc il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai duel là sur ce match-là. Le mérite de Bordeaux-Bègles, c'est que c'est devenu le concurrent crédible du Stade Toulousain, mais peut-être, je dis bien peut-être, que si le Stade Toulousain gagne aujourd'hui, eh bien l'UBB va redescendre de deux crans et ça va être pour différent. Le championnat, et ça va leur renvoyer à l'ogre toulousain qui les avait défoncés à Marseille il y a deux ans en finale du top 14.
Tiens, je sais pas si vous vous souvenez. Simon, avant de donner la parole, Mariette sur WhatsApp au 06 12 424 424, une fidèle auditrice des Grandes Gueules du Sport, fan de l'UBB, mais bon, objectif, nous l'est-elle toujours, le Stade Toulousain a-t-il encore un ascendant? Moi je crois que cette emprise mentale n'existe plus, mais le Stade Toulousain a toujours un ascendant sur les médias qui imposent un récit. Bah non, attendez, on n'est pas le Stade Toulousain, mais voilà, on va regarder effectivement ce que ça va donner cet après-midi, Simon.
Oui, alors on nous impose un récit, on a surtout les yeux et les oreilles ouverts depuis des années.
La question
c'est pas de savoir si l'UBB va battre le Stade Toulousain cet après-midi, parce que si tu me demandes de placer un pari, nous donner les codes, je pense que l'UBB va gagner cet après-midi, mais c'est pas parce que l'UBB va gagner cet après-midi ou gagnerait cet après-midi qu'ils auraient un ascendant sur le Stade Toulousain, parce que il faut savoir encore une fois de quoi on parle.
Ouais.
Ah bah si l'UBB gagne cet après-midi, on va dire ah ça y est, est-ce qu'ils sont au niveau de Toulouse, alors que ce sera à domicile. En fait, l'UBB depuis quelques saisons, chaque fois qu'il a battu le Stade Toulousain, c'est
à la maison.
À la maison.
Avant.
C'est souvent en sortie des matchs du tournoi, donc Toulouse n'envoie pas la grosse équipe à l'UBB. Et puis, voilà, encore, il faut savoir de quoi on parle.
Il faut Ernest Vallon, quand même.
Oui, alors c'est vrai que c'était la saison dernière en top 14, et c'est vrai qu'elle était surprenante, parce qu'en plus, Bordeaux n'y allait pas avec sa plus grosse équipe. Mais malgré tout, tu l'as souligné, c'est le Real Madrid, mais le Real Madrid mythique, en fait. Il faut savoir ce que Toulouse représente. Moi, je pense que si l'UBB, tant que l'UBB n'aura pas battu Toulouse en finale pour un titre, que ce soit en Champions Cup, et a fortiori en top 14, il n'y aura pas d'ascendant. Et si tu regardes l'histoire récente, à chaque fois que ça compte,
il y aura
le Stade Toulousain, le Stade Toulousain, où il y aura un ascendant s'ils battent le Stade Toulousain pour un titre. Mais tant que ce ne sera pas le cas, si tu regardes les finales de top 14, il n'y a pas de discussion. Et aujourd'hui, le Stade Toulousain, il y aura quasiment la meilleure équipe, il y aura les deux meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont, Thomas Ramos. Mais si tu regardes, ils n'ont jamais perdu un match contre l'UBB lorsqu'ils démarrent la rencontre. Tant que moi, j'attends une grosse performance de l'UBB cet après-midi. Mais si tu veux finir le jeu dans le rugby français, tu dois battre le Stade Toulousain dans une finale et soulever le trophée, alors que Toulouse regarde avec la médaille. Et alors Champions Cup, ok, mais à mon avis, ça ne se jouera que le jour où l'UBB piquera le Brennus à un Stade Toulousain qui, pour moi, n'a jamais été
Wilfried.
Ouais, ça compte quand même, Simon. Alors, je suis d'accord avec toi sur le coup des finales, mais cet après-midi, ça compte quand même, ça compte beaucoup, parce que le Stade Toulousain a toujours en travers la demi-finale de l'an dernier. Ah ouais. Il leur manquait, et ils veulent pas se retrancher derrière ça, sur les absences de Dupont, la semaine, ils avaient perdu Ramos et Movaca. Mais la manière dont ils avaient été battus, ouais. 35-18 l'année dernière, ça leur est vraiment resté en travers de la gorge. Et donc, quand je te dis que ça compte quand même, parce comme les deux équipes, ils sont décidés en découdre cet après-midi. Mmh. Et s'ils étaient rebattus à nouveau, pour l'UBB, ça serait vraiment un pas en avant quand même, dans cette quête de trophée.
Je suis d'accord avec toi, Wilfried, parce qu'on ne va pas se leurrer. Le vainqueur d'aujourd'hui a de grandes chances de soulever le trophée final.
Bien sûr.
Donc, l'UBB, s'ils rebattent le Toulouse là, et ils peuvent se faire un doublé en Champions Cup, c'est quand même pas
anodin. Et vu le projet toulousain et la supériorité de Toulouse depuis quelques années sur le rugby en Europe, tu te dis que deux saisons avec le trophée majeur pour eux, parce que c'est le top 14, mais en perdant un trophée,
il y a une fausse note. C'est un vrai match excitant.
Même en Angleterre, ils disent que c'est le match de l'année.
Mais
ça rappelle un peu ce que fait l'UBB, ça rappelle un petit peu, là je parle sous le contrôle de Wilfried, ce qui avait un petit peu imposé La Rochelle en termes de respect dans les yeux des Toulousains il y a deux ou trois saisons. Et bon, La Rochelle a fini par redescendre d'un
palier. Il faut tenir sur la durée. C'est ce que fait le Stade Toulousain, effectivement.
Non, mais pour le coup, pour revenir, parce que là on parle de l'ascendant ou pas, vous avez été sportif de haut niveau. Quand tu te retrouves face à un monstre, tu sais très bien que quand tu le domines à un moment donné, tu penses peut-être au fait que la personne en face, je sais pas, Raphaël Nadal, tu le domines sur terre battue, tu te dis, putain, c'est Raphaël Nadal quand même. Le mec, il peut revenir. Le Real en Ligue des Champions, t'as beau être le Bayern, avoir un ascendant, tu te dis très bien en match retour, putain, c'est le Real quand même. Parce que là on parlait du poids de l'histoire en fait, qui va faire qu'à un moment donné dans un match. Quand ça va être les 15 dernières minutes, si c'est encore serré, est-ce que ça joue ce genre de truc en fait ? C'est pas un truc de journaliste, c'est ça que je veux dire.
Évidemment que ça joue. Je pense que le Real Madrid.
Bennett, quand tu bats Federer à Bercy.
Mais bien sûr.
Pendant le match. Alors après, je me souviens, pour toi, t'étais pas l'UBB face au Stade Toulousain. T'étais vraiment.
Mais bien sûr. Tu vas dire un niveau de surprise. T'es sur le qui-vive encore plus que d'habitude parce que tu sais qu'ils peuvent revenir. On va se placer du point de vue. Là, on a parlé beaucoup de l'UBB. On va se placer du point de vue du Stade Toulousain. Je pense que quand il y a deux ans, quand ils leur mettent la rousse monumentale en finale du championnat. Toulouse, ok, ils sont vraiment au-dessus, il y a un gouffre.
Mais il y a l'orgueil aussi, je pense, chez eux qui s'active. Qui active un pourcentage en plus. On est Toulouse, on a montré quelque chose.
Sauf que l'année dernière, ils ont perdu, même s'ils avaient des absents. Comme dit Wilfried, ils ne l'ont pas digéré, cette demi-finale de Champions Cup. Parce que Toulouse, aujourd'hui, Mola, comment il gère les Avengers qu'il a. Il faut qu'il gagne tous les mecs parce qu'il a Dupont, Ramos, la deuxième ligne de l'équipe de France. Il a une troisième ligne qui est exceptionnelle. Ils veulent tout gagner. Ils ont raison d'être comme ça. Donc, je pense que cet après-midi, Toulouse, ils ont envie d'en découdre pour dire attendez, mais ils savent que l'UBB, parce qu'ils ont gagné la Champions Cup l'année dernière, ils sont à un énorme niveau. Donc, c'est pour ça que ça va être un combat de titans.
Est-ce que tu dis, Simon, c'est important parce que je pense que le poids de l'histoire, pour construire un effectif et construire un joueur qui joue dans un club, comme le fait très bien le Stade Toulousain, de rappeler de nombreux titres, les anciens qui sont... Ça marche et ça construit un athlète. En revanche, pour la confrontation directe, c'est le momentum. C'est-à-dire que c'est le match d'avant, c'est deux matchs avant.
Oui.
Moi, j'ai eu l'expérience d'arriver dans une très grande équipe Quick-Step avec un énorme palmarès derrière.
C'est l'équipe qui dominait sur les classiques flandriennes.
C'est une fierté. Tu arrives, tu t'imprègnes de l'histoire. Après, quand t'es au départ et qu'il n'y a plus Bonnen, il n'y a plus Bettini, il n'y a plus Gardzelli, il n'y a plus tout ça.
Oui, ça ne fait pas gérer les cours. Mais parce que tu portes ce maillot, tu te dis, je ne peux pas lâcher encore moins qu'avec une autre équipe.
Oui, mais
Jérôme.
Non, mais je te dis ça, Simon, parce que je pense que dans les matchs qui vont s'enchaîner entre les deux, à un moment donné, Toulouse ne va pas pouvoir, s'ils perdent plusieurs matchs, juste se dire mais bon, on est toujours au-dessus parce qu'on a gagné il y a 20 ans. Non, c'est le momentum qui compte.
En effet, une victoire de l'UBB cet après-midi, ce serait un pas de
ça
plus
deux
pour
fois de suite.
Essayer un jour de regarder le Stade Toulousain dans les yeux. Mais l'UBB a beau être tenant du titre de la Champions Cup, l'équipe à battre dans cette compétition, ça reste le Stade Toulousain.
C'est la finale.
Voilà, ça reste le Stade Toulousain. Si Toulouse est éliminé aujourd'hui, ce sera quand même une immense performance de l'UBB. À l'inverse, si Toulouse gagne, ce sera une grosse perf de la plus grosse équipe.
Tiarda, 20 points. Ce serait un coup d'arrêt pour Toulouse qui vient de se qualifier pour 7 demi-finales consécutives.
Et oui, donc là, il y a l'orgueil de pas justement ne pas passer ce cap-là. Vincent, supporter du Stade Toulousain, nous appelle du Puy-de-Dôme. Salut Vincent.
Bonjour les GG.
Vous l'avez toujours cet ascendant sur l'UMM, tu penses?
Je pense qu'il est, mais léger. Je vais pas, ça va pas être un ascendant énorme, mais léger. Parce que l'an dernier, comme il a dit, il y a eu la double confrontation sur deux matchs importants. L'UBB nous balaye chez eux, faut être réaliste, nous balaye chez eux. Il y a eu un plan de jeu de la part du Stade Toulousain qui était catastrophique l'an dernier lors de la demi-finale. Tu te fais massacrer en continuant d'aller sur les extérieurs et contrer comme des malades. L'UBB avait très bien joué. En finale, tu vois qu'il y a le retour de Thomas Ramos, qui est le général en chef de Toulouse. C'est pas Dupont, c'est pas Ntamack, c'est Ramos le général. Le général, il a dit le ballon, il dépasse pas le 13. Il a pas dépassé le 13. Le ballon, tu gagnes. Tu vas en prolongation et tu gagnes. Et surtout, l'ascendant où tu l'as, je pense qu'il est encore psychologique. Et Bielbarré l'a dit lors du dernier tournoi. Il va voir Ramos souvent, il dit écoute, si tu me la mets pas ta pénalité contre l'Angleterre, tu m'en as mis deux au même endroit. Et je pense que le match, s'il est serré dans les 5 dernières minutes, t'as Toulouse qui a le ballon, vous verrez que l'UBB craquera sur une pénalité à la con et sur un gros joueur.
Non mais en fait c'est exactement de ça, c'est le cœur du sujet, je pense. Qu'est-ce qui va se passer?
Ouais. Mais je pense que si c'est serré, malheureusement l'UBB, le match serré, ils l'ont pas gagné contre Toulouse encore.
Moi je crois pas à ça.
En phase finale ou quoi que ce soit. Non, mais ils l'ont pas gagné encore.
C'est un match
ils ont toujours rival à la tête.
Et puis il y avait pas Antoine Dupont hein, juste sur la demi-finale remportée par les
Bordelais. Sur la valeur sportive, je suis d'accord. Sur le valeur psychologique, l'ascendant psycho, il y a pas. Il n'y a plus, et en plus, c'est des joueurs qui se côtoient dans le 15 de France, ouais, quoi. Je pense pas que, comme le dit Seb, aujourd'hui, tu n'as pas un Jalibert qui a peur de Dupont, c'est pas vrai.
Mais moi, je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé du contraire. Les Dupont, même dans les yeux des mecs qui les côtoient à l'entraînement au 15 de France, ça reste des monstres sacrés, des légendes, des exemples à suivre, des mecs qui sont en train d'accomplir quelque chose qu'on ne reverra peut-être plus avant plusieurs années. Et pour moi, dans l'effectif de l'UBB, il y a, malgré tout, même si elle est inconsciente, une déférence face à ces mecs qui sont les références actuelles d'un rugby mondial de plus en plus fort. Et franchement, je pense que ce serait une immense performance de l'UBB, bien qu'à domicile, de battre le Stade Toulousain.
Merci Vincent de nous avoir appelé au 32-16 et merci Wilfried Templier qui, sur la route de Bordeaux, s'est arrêté pour être avec nous dans les grandes gueules du sport.
Stoppage.
C'est ça l'emportage.
Allez l'UBB quand même.
Au commentaire à 16h, il est bordelais, je rappelle. De bon UBB, match, Stade Toulousain, ça va être énorme. Évidemment, on a hâte de vivre ça tous ensemble. Vous ne raterez rien sur RMC. Le rugby, Paris-Roubaix, le tennis. Et dans un instant, on va parler de notre nouveau champion, celui qui va occuper bien des unes et des unes. Paul Seixas a gagné autour du Pays Basque. Première fois qu'un Français gagne depuis 19 ans sur une course à étapes. Tiens, pardon, je ne vous ai pas donné le résultat du sondage. Le Stade Toulousain a-t-il encore un ascendant sur l'UBB? Vous dites oui à 59%. Donc le oui a gagné 3 points. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
L'affaire du 9, ça commence ici, sur la première section de pavé à Neuvilly, au kilomètre 109.
Les grandes gueules du sport.
Paris-Roubaix ressemble à un cauchemar.
The hell of the North is just not a race.
Georges Quilino.
LeBron James qui a fait la pub de Paris-Roubaix, évidemment. Départ dans 20 minutes, depuis Compiègne.
Ça n'est pas
pour les 35 heures pavées. Mais c'est invraisemblable. Okay. C'est deux mondes qui se rencontrent. Attends, Jérôme Pinault, franchement. T'avais imaginé LeBron James faire la pub de Paris-Roubaix, franchement?
Moi, j'ai cru que c'était un gros chèque pour communiquer.
Mais oui, j'ai cru que c'était l'IA. Évidemment, c'est pas innocent.
Il y a deux ans, des finals de la NBA cette année.
S'il faut, je le ferai. S'il faut, je le ferai. Tu imagines Jérôme Pinault sur Hey, it's Jérôme Pinault on NBC tonight, NBA Finals.
Voici le chèque est équivalent à celui qu'ils ont donné à LeBron. Je fais, pas de problème.
Et si t'arrives à te libérer,
je fais même la finale du saut à la perche quand tu veux.
Si t'arrives à te libérer, tu vois, parce que c'est vrai que ça. C'est beaucoup de trucs. Hein.
C'est ça.
Maintenant, tu t'occupes d'un club de foot à Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, effectivement, qui a gagné hier contre le Poré-sur-Vie.
Bravo.
Tiens, je vous donne juste un résultat important pour le marathon de Paris, la course élite. C'est l'Italien Crippa qui s'est imposé chez les hommes en 2h05 et 16 secondes. Et chez les dames, l'Éthiopienne Chouret Demisé a pulvérisé de plus d'une minute le précédent record du marathon de Paris. Elle s'est imposée en 2h18 et 33 secondes. On souhaite bon courage toujours aux 60 000 participants.
Sans prendre le métro. Hein.
Ouais, non, ça.
Et Max, des nouvelles, non?
Notre ami Maxime Abolin, il lui reste 13 km, notre producteur des grandes gueules du sport. On suit également Jean-Louis Tour.
Il est au 30e.
Jean-Louis Tour, également à l'RMC, qui est en ce moment sur le parcours un peu plus loin derrière Max. Mais bon, il a d'autres ambitions peut-être.
Pas le même gabarit.
Pas le même gabarit. Oh! Dans un instant, le j'y crois pas, les amis, mais d'abord, Paul. Molsexas, donc, a remporté hier le Tour du Pays Basque. Il est devenu le premier Français à gagner une course à étapes en catégorie World Tour, l'élite depuis 19 ans. Le Lyonnais a crevé l'écran en remportant 3 étapes et en assurant le show pratiquement tous les jours. Son dauphin au général Lipovic termine à 2 minutes 30. Éternité. Punchline du Français de 19 ans au micro de Kevin Morand hier après son sacre.
RMC, la punchline GG.
Bien sûr, je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs du monde. Après, bien sûr, il y avait quelques coureurs qui n'étaient pas là, ou voilà, qui sont tombés, ou qui n'étaient pas bien. Donc voilà, je me dis pas que je suis le meilleur ou dans les trois meilleurs, mais en tout cas, je sais que je peux jouer un peu. Et voilà, je sais que je peux jouer avec eux et courir devant avec des ambitions. C'est ça qui est bien.
Je sais que je peux jouer avec eux. Je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs du monde. Il a 19 ans, je vous rappelle. Molsexas, qui assume de faire partie des meilleurs. Les GG, je vous pose la question. Est-ce qu'il prend un risque en parlant comme ça? Jérôme Pinault?
Bah, évidemment que non.
Simon Dutin?
Non.
Pascal?
Oui.
Bennett?
Pas du tout.
On vous attend au 32-16 pour réagir. Tiens, Pascal, pourquoi tu dis oui?
Eh bien, parce qu'il a 19 ans. Mais attention, ça me plaît, hein. Ça situe le champion qu'il est et la confiance en lui qu'il habite. Ça, c'est indéniable. D'autant qu'il a la tête bien faite, qu'il a un bon entourage, tout le monde part de lui. Bah, il a bien fait de le faire. Mais néanmoins, moi, j'ai dit oui parce que ça me plaît qu'il assume de prendre ce risque-là, à savoir de se prendre un revers de médaille si jamais ça se passait pas comme il voulait, aussi vite qu'il le souhaitait. Mmh. Voilà. Pour cette raison-là, j'ai dit oui. Pour le reste, bravo, ça situe la trempe du champion qu'il va devenir. Il a confiance, une énorme confiance en lui, certainement nourrie par les performances, par les datas qu'il connaît aussi, par les performances qu'il effectue, tout simplement.
Donc,
ça ne peut être qu'un grand champion à partir du moment où il a ces mots-là.
Voilà. Non, mais Jérôme Coppel, qu'on avait dans les grandes gueules du sport hier, on avait parlé de est-ce qu'il doit viser un podium. Jérôme disait il doit le viser, mais il doit pas forcément le dire pour ce que ça peut alimenter derrière.
Pour le Tour de France ?
Ouais, exactement.
C'est autre chose de dire je veux faire podium du Tour que de dire en ayant éclaté tout le monde sur le Tour du Pays Basque, qui, je rappelle, est l'une des courses par étape de la saison la plus difficile. Alors certes, il y avait peut-être quelques-uns qui n'étaient pas en forme, mais ça, c'est pas de la faute de Molsexas.
On rappelle que Ayuso et Isaac Del Toro ne sont pas allés au bout de l'épreuve, ils ont abandonné.
Mais par contre, je rappelle juste qu'il a martyrisé un garçon qui s'appelle Lipovic, qui a fini troisième du dernier Tour de France. De pas dire qu'il veut faire podium sur le Tour, peut-être. En revanche, de dire qu'il est aujourd'hui capable de jouer avec les grands, bah évidemment, de toute façon, il a pas besoin de le dire, on l'a vu. Il a pulvérisé tout le monde. Il a gagné cette course par étape avec 3 étapes dans l'escarcelle. Il n'y a personne qui a pu rivaliser. Premier jour, 1 minute au chrono. Deuxième jour, 2 minutes. Tout le monde descend. Au revoir, bonsoir, c'est fini. La fin du game et c'est la fin du bal. Pourquoi ? Parce que lui, il avance comme ça. Et je crois que quand il fait cette déclat-là, juste avant, il dit « Bon, il y en avait 2 ou 3 qui n'étaient pas si en forme que cela.
Oui.
Mais bon, je suis prêt à jouer. » Parce que c'est naturel chez lui. C'est aussi naturel que pour avoir discuté avec un des directeurs sportifs cette semaine, il prépare déjà comment il peut gagner la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.
Gagner Liège-Bastogne-Liège.
Évidemment, il y va pour gagner sur ces courses-là.
Mais
il sera certainement battu, mais il va pas prévoir un plan dans sa tête à 19 piges en disant « Bon, si je fais 2, c'est bien ». Non, il veut aller gagner, et puis s'il est battu par plus fort. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ce qui s'est passé cette semaine, au-delà du fait que ça faisait 19 ans que ça s'était pas passé. C'est phénoménal. On n'a jamais vu ça. Je cesse de le répéter, moi, depuis que Molsexas est sur un vélo, et notamment à ce niveau. On n'a jamais connu un coureur cycliste de ce niveau en France depuis Bernard Hinault. Donc, le logiciel est complètement différent.
Il a de la trempe de Pogacar pour toi ?
Bah, en tout cas, je pense que sur Liège-Bastogne-Liège et dans les prochains objectifs de Tadej Pogacar, il va être inscrit en premier dans la liste des coureurs auxquels il faudra faire attention parce que il n'est pas sans savoir ce qui s'est passé sur le Tour du Pays Basque. Et Molsexas, ça fait un véritable récital sur le Tour du Pays Basque.
Simon ?
Je souscris à ce que vient de dire Jérôme, parce que déjà, il dit, il assume faire partie des meilleurs. Il nous explique pas qu'il est le meilleur. Donc ça pourrait être un petit peu péché d'orgueil et un petit peu dangereux.
Oui, mais il pourrait le dire aussi. Hein.
Oui, je peux aller jouer avec les grands.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en a connu des champions plus prudents.
Oui, mais Jérôme l'a rappelé, lorsqu'il assume le fait d'avoir réalisé une très grande course, il te dit, OK, il y a des mecs qui étaient peut-être pas à leur niveau.
Ça dit quelque chose de lui, en fait.
Il faut voir comment...
on parlait il y a encore quelques semaines des coureurs qu'il a battus alors qu'ils ont certes abandonné, mais bon, je crois qu'il bat aussi Roglic dans le tas, enfin des mecs
bien qui sûr, sont là. Bien sûr, bien sûr. Et Moseux qu'on voyait potentiellement sur un podium tranquille.
On a un Français de 19 ans qui tape des mecs comme ça, et là on s'est déjà habitué. Bah, tu sais, donc il ne fait que constater les choses. Il a la tête sur les épaules. Moi j'ai mon camarade de l'after Walid Acherchour qui aime bien rappeler quand c'est factuel. Il dit bon ben quand il pleut il pleut, quand il fait beau il fait beau. Bon ben c'est que ça, s'il court déjà parmi les meilleurs du monde, c'est factuel. Donc
c'est certainement aussi que ses concurrents l'ont vite constaté que oui, c'était l'un des meilleurs.
Il faut voir
c'est
la aussi façon ça. Dont
ah, il doit sentir que les autres le regardent différemment.
Déjà. Il faut voir la façon dont Machin, dont Massen, dont tous les mecs, tous les patrons des autres équipes ont parlé de lui durant
les
cette semaine.
De UAE, notamment ils sont tous à vouloir le faire signer. C'est pas pour rien. Ils savent que la suite c'est lui. Ils savent qu'il y a Poggi et à l'avenir ce sera lui. Ils savent aussi que le seul qui a osé essayer et tenter et finalement pas été ridicule sur l'estradé, c'est lui. Il a gagné la Drôme Ardèche avec une aisance infolante.
Non mais parce
qu'il
a dit un truc important, Jérôme, c'est peut-être qu'il a vu quelque chose cette semaine dans ses données aussi.
Bah, il lui fait dire aujourd'hui. Oui, et puis il se sent progresser chaque jour. Il le dit hier. Moi, pour tout vous dire, j'ai appelé Kevin hier. J'étais inquiet sur le temps.
Kevin Morand, notre envoyé spécial au Pays-Bas.
Quel temps il fait pas beau. Parce que quand je l'ai vu descendre cette semaine, je me suis dit, il est tellement en confiance que
il a attaqué tous les jours.
C'est vite arrivé. Mais en fait, même sous la pluie, il a déclaré hier, pour un gamin de 19 ans, à niveau World Tour, aujourd'hui, j'étais encore plus fort que les autres jours. C'est signe que il va en progressant et qu'il récupère super bien. Donc, qu'il déclare cela, il aurait déclaré je suis le plus fort, j'attends Tadej maintenant. Non, il dit je peux rouler avec les plus grands. Il met Tadej, il met Evenepoel évidemment, il met Vingegaard. Maintenant moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on nous annonce vite qu'il allait au Tour de France et va constater, parce que qu'on me dise plus que c'est trop tôt, que c'est patati. Non,
on ne saura pas avant Liège-Bastogne-Liège, en tout cas après Liège-Bastogne-Liège.
En tout cas, il a déclaré une chose, est-ce qu'il a confié, il y aura pas de Tadej Pogacar à la Flèche wallonne, donc il en fait un objectif pour gagner cette course. Voilà.
Bennett, toi sur la prise de risque ou pas d'assumer son statut. On rappelle, il n'a pas encore fait une saison complète en pro, hein, Paul Sexas. Hein.
Non, mais
il a jamais fait de course de 3 semaines également. Hein, donc
j'aime bien la formule de Simon. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il fait beau. Il est arrivé, il est au Strade Bianche, il a regardé un petit peu Poggi droit dans les yeux. Ok, Pogacar a gagné, ce qui était normal, mais il a rivalisé avec lui. Là, il gagne le Tour du Pays Basque avec la manière, avec 3 étapes, des profils différents. Il gagne le chrono, il gagne l'épreuve reine. Donc, ça veut dire qu'il est complet. Et puis, hormis certaines spécificités comme à Roubaix où il y a une technique pour passer les pavés, où il y a c'est un sport quand même physiologique. Et donc, les datas, aujourd'hui, les mecs, ils sont super suivis. Ils voient ce qu'il est capable de produire comme effort à telle puissance sur telle durée. Donc, il sait qu'il est dans le haut du panier et il l'assume. Et il dit pas, je vais aller chercher Pogacar sur le Tour de France. Je vais aller chercher Pogacar
sur le Tour. Non, il dit, je veux jouer avec les meilleurs.
Mais
heureusement.
C'est pas qu'il dit, je veux jouer. Mais parce qu'en fait, il y est déjà.
Je peux rivaliser avec les meilleurs du monde.
Il y est déjà.
C'est comme si
Zverev aujourd'hui disait je vais essayer d'aller rivaliser avec lui. Il est troisième mondial, mec.
C'est la même comparaison. C'est que il y a des espèces de sas où dans le premier tu mettais Poggi, Vingegaard, Evenepoel pour les courses par étapes, et puis tu mets Poggi tout en haut.
Voilà. Non, mais tu mets Poggi, Vingegaard sur le grand tour. Moi, je mets Evenepoel en dessous.
Et puis derrière, on avait un sas avec Del Toro, Ayuso, etc.
Il est même peut-être devant Evenepoel.
Et puis on lui prédisait déjà un futur brillant, mais encore fallait-il confirmer, être à la hauteur des attentes, parce qu'on aurait pu dire oui, mais alors il est encore très jeune, il manque un petit peu d'expérience, mais non, au contraire, il surperforme par rapport à ce qu'on pouvait attendre raisonnablement de lui lors de cette première saison. Faut se souvenir, il fait 13e à Kigali, hein, au Mondiaux de Sanda, qui est une course absolument dantesque.
Première fois qu'il faisait une course aussi longue.
Et voilà, c'est le seul qui répond à l'attaque de Poggi.
Exactement, hein. Et il s'est comporté déjà d'une.
Il y a quelque chose qu'il faut ajouter, ça va plaire à Pascal, j'en suis sûr, c'est que s'il a été à ce niveau-là et s'il fait ces déclarations-là, c'est qu'il a pu constater aussi sur le terrain, ce qui me rassure moi en tant que Français pour le mois de juillet, c'est qu'il a une équipe qui a été très costaud, et notamment Nicolas Prudhomme qui a élevé son niveau de jeu en tant qu'équipier, dernier équipier en montagne. Ils ont été très très forts, ils n'ont pas à rougir. Décathlon CMA CGM n'a pas à rougir de la concurrence avec les autres grandes Alors EAE, c'est autre chose, mais ils sont aussi forts que Visma, ils sont aussi forts que Lidl, ils ont du monde, et donc ça, Paul, je pense, l'a senti, et c'est aussi pour ça qu'il se sent capable de rivaliser avec les meilleurs, parce que rivaliser avec les meilleurs sur des grandes classiques et sur des grands tours, il faut une équipe. Tout seul, il n'y arrivera pas, et il a certainement senti cette semaine que l'équipe était à la hauteur.
Puis Georges, il va falloir gagner deux fois les deux années prochaines s'il veut se hisser à la hauteur d'une autre légende du cyclisme français. Bon, mon arrière-grand-père, Victor Fontan, qui a fait le triplé en 1927, 28 et 29 autour du Pays Basque. Donc voilà, bonne chance, Paul.
Donc ton arrière-grand-père est devant Paul Sexas encore, c'est ce que tu as en train de nous dire. C'est incroyable, ça. C'est fou, cette information.
Tiens,
sur WhatsApp, au 0612 424 424, j'ai Boris, un fidèle, qui nous dit « Laissez Sexas tranquille un peu, regardez combien de temps a mis Evenepoel à venir sur le tour. » Et oui, mais regardez, en fait, Sexas, on lui a posé la question sur la pression hier, il a dit « Bon, au fait, la pression, j'écoute même pas vraiment ce qu'il se dit sur moi, je fais mon truc. » Donc, il a l'air, lui, de résister à tout ça, en fait. Donc, il sait très bien tout ce qu'il dit.
Et même
Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a parlé de lui et a parlé de ce qu'il représentait pour le cyclisme français aujourd'hui, le directeur du Tour de France. Donc,
on peut tout le monde légitimement répondre à tout cela en disant, de toute façon, s'il y va pas cette année, l'année prochaine, la pression sera la même. Et oui, que ça va pas le fatiguer de le faire cette année parce qu'il est déjà au-dessus de tout le monde et qu'il y a deux, trois coureurs sur la planète qui sont plus forts que lui. Donc, je vois pas pourquoi il se passerait d'y aller cette année, parce que les conditions sur lesquelles il irait pas au Tour de France, il les retrouverait sur la Vuelta s'il fait un grand tour. Et sinon, l'année prochaine au Tour, ça va être décuplé, parce qu'on attendra que ça. Et là, il pourra pas dire, j'y vais pour voir, il devra y aller pour gagner. Donc, je vois pas pourquoi il irait pas cette année.
Pierre sur WhatsApp me dit, la question pour moi est de savoir s'il est déjà au niveau de Remco Evenepoel ou de Jonas Vingegaard sur les courses à étapes. C'est évidemment le fond, en fait, de ce qu'on se dit aujourd'hui, hein. Où est-ce qu'on positionne? Et sur Liège-Bastogne-Liège, il y aura Pogacar et aussi Remco Evenepoel. Ce sera intéressant à observer dans deux semaines. Décision sera prise ensuite sur sa participation ou non au Tour de France. Je vous invite à vous abonner à Grand Plateau, notre podcast cyclisme sur les différentes plateformes de téléchargement d'RMC, avec notamment un super reportage de Kevin Morand, qui était au plus près de Paul Sexas au Pays Basque, qui nous raconte de l'intérieur, avec les proches, avec les supporters, avec Paul, avec son entourage, comment ils ont vécu tout ça. Et évidemment, abonnez-vous, parce qu'on parlera de Paris-Roubaix et de cette victoire de Sexas au Pays Basque. Dans un instant, le J'y crois, j'y crois pas. Et dans 5 minutes, le départ de Paris-Roubaix, tout simplement. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec les participants de Paris-Roubaix au départ à Compiègne. Van der Poel pour aller chercher l'histoire, peut-être un quatrième sacre, égalé le record de Boonen et de Vlaminck. Et Pogacar pour aller chercher le seul monument qui manque à son palmarès. On est à Compiègne et le départ va être donné dans un instant. Course à suivre toute la journée sur RMC, l'enfer du Nord. Sous le soleil aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de pluie, avec un petit vent dans le dos qui pourrait favoriser les favoris, évidemment. Allez les amis, le j'y crois pas tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, j'y crois pas.
Tiens, j'y crois pas, les GG. Nantes va descendre en Ligue 2. Julien Beneteau.
Ouais, j'y crois.
Jérôme Pinault.
Ah oui, j'y crois, oui.
Pascal Duprat.
J'y crois.
Simon Dutin.
J'y crois.
Ça le fait ricaner, le bordelais, là.
Ouais. Ouais, c'est la façon dont tu le dis, oui. Ouais.
Bah oui.
0-0 hier à Auxerre, dans un match qui était quand même très important, hein, pour la lutte pour le maintien. Les Canaries sont à 5 points des Auxerrois barragistes, avec un match en moins. Mais ce match en moins, c'est contre le PSG. Reste à jouer contre Brest, à Paris, donc, à Rennes, contre l'OM, à Lens et contre Toulouse. Hein. Le calendrier, en plus, c'est assez dingue. Vaïdal Iodzic, le coach nantais, sur la pression qu'il y a autour de lui, autour du club en ce moment.
L'équipe est sous grosse pression. Depuis des années, le championnat, il y a le plus mauvais dans l'histoire de ce club. Environnement, il est très hostile. Vous savez, cette situation, il n'est pas facile pour travailler sereinement. Mais bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Je suis vraiment triste pour mon club Nantes. J'essaie tout ce qui est possible de donner un coup de main pour essayer de se sauver. Est-ce qu'on va réussir? Je ne peux pas vous dire. En ce moment, ça, c'est très compliqué, très difficile.
Ouais, on le sent un peu démuni, Pascal Vaidalidovic.
Ouais, mais bon, il est dans sa mission quand même, hein. Il l'a accepté. Le premier match, il l'a perdu à domicile. Ils ont bien joué. Mmh. Ils ont fait 2-0 derrière. Mais malgré tout, il y a 5 points d'écart. Il reste peu de matchs. Ils ont un match, certes, en retard, mais c'est à Paris Saint-Germain. Donc,
Franchement, j'en parlais hier, je crois, dans les paris RMC. Le problème de Nantes, il n'est pas d'aujourd'hui. Le problème de Nantes, c'est que vous avez quand même une famille qui a mis beaucoup d'argent pour acheter le club. Et ça, il faut quand même le souligner. Et puis, vous avez une hostilité permanente qui fait que l'environnement, mais aussi l'ambiance, l'atmosphère, elle n'est pas propice
à la performance.
À la performance. Donc voilà, j'ai peur.
C'est pas que l'environnement, j'ai peur que c'est les décisions qui prennent.
Je te trouve dur, Pascal, avec l'environnement.
Ouais,
je te trouve très dur.
Non, mais moi, je vais parler de l'environnement.
Qui avait gagné la Coupe de France avec eux.
Ouais,
ils sont
obligés. Malgré tout.
14 fois d'entraîneur en 3 mois, au bout d'un moment, c'est pas l'environnement, là.
Vous savez pas tout, comme moi, mais malgré tout, plus de 100 millions d'euros, je crois. C'est ce qu'ils ont mis dans le club, si t'aimes mieux. L'antagonisme que ceci génère est aussi exagéré que les décisions qui sont prises quelquefois. Voilà. Mais que de dire que c'est uniquement, la famille Kita qui cristallise. Si le FC Nantes est en Ligue 1, c'est aussi parce que ils se sont mouillés.
Jérôme,
il faut là le reconnaître.
Moi, je te rejoins et j'ai un énorme respect pour Monsieur Kita qui paye pour que ce club ne sombre pas. En revanche, tu peux aussi mettre beaucoup d'argent et accepter aussi d'entendre que tu n'as pas toujours fait les bons choix. Ouais. C'est payer, c'est une chose. Se bien s'entourer, c'en est une autre. Mais ça, on le sait, c'est historique et aujourd'hui, notre président paye pour que ce club reste au moins là. S'il n'était pas là, on parlerait peut-être pas de relégation probable et presque certaine maintenant. Mais on parlerait pas de Ligue 2, mais bien plus bas. En revanche, moi, Pascal, je sais pas ce que tu en penses, mais je suis exacerbé par le discours tenu par Vahid Halilhodžić. Parce que quand tu viens, t'es en mission. Soit t'es en mission et t'y crois et
t'exaspéré,
tu vas au bout.
Exaspéré plutôt. Hein.
Mais je sais, oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Tu es exacerbé. Bah, en fait, tu peux être exacerbé, hein, tu fais ce que tu veux.
Exaspéré parce que ce qui me dérange, c'est qu'il parle comme si je suis venu donner un coup de main. Donc déjà, quand tu viens, moi, quand je vais donner un coup de main à Poch, pas payé comme lui. Et si tu crois pas, viens pas. Ce qui est désespérant, c'est que soit il y avait plus que lui. Et là, c'est très embêtant pour le club.
Il y avait aussi moi. J'étais pas déconnant. Hein,
tu serais allé. Non, mais je veux dire, tu vois le choix d'un
j'adore
entraîneur.
J'adore le football. Là, je travaille pas, donc je serais allé à Nantes pour me. Eh
ben,
pour
donc, essayer. Du coup, je pense.
Je te dis pas que j'aurais réussi.
Je sais pas si on sait.
J'aurais pas eu ce même discours. Par contre, c'est sûr.
Ouais, ça me gêne moi d'entendre Vahid parler comme ça. J'ai une énorme admiration évidemment pour le joueur et tout ce qu'il représente au club. Mais là, j'ai l'impression que. Il a déjà démissionné même avant d'être arrivé, quoi. Enfin, c'est tu peux pas t'en sortir. Les joueurs
c'est surtout si t'es mieux dans sa décla. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il dit l'environnement est hostile.
Bon, il le savait.
Il le sait quand même. Il le savait à l'avance.
Il le connaît bien.
Oui, c'est difficile. Ben oui, tu savais que t'avais des points de retard. C'est comme ça, c'est difficile.
Attention, je pense que les supporters nantais ont écouté que tu y serais allé, Pascal Duprat, à Nantes. Hein.
Bah,
on
oui,
regarde ça en tête.
Ça aurait été cool.
Bah, bon,
tu serais
mieux
habité à la maison, Pascal.
Stop. Commencez pas à faire les gorges chaudes de cette déclaration-là. Vous avez interrogé sur la responsabilité de la famille Kita et notamment de Waldemar Kita. Donc personnellement, chapeau parce qu'il met beaucoup d'argent. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup qui en mettent, des mécènes. Citez-les moi, s'il vous plaît.
C'est vrai, bon, il y en a
en rugby,
il y en a
de moins en moins.
À Toulon, avec Monsieur Lemaître, notamment en rugby. Nice Le Havre, 10h15, Toulouse Lille, c'est important pour le podium. Et ce soir, 20h45, Lyon-Lorient. J'y crois pas, tiens, les amis, en golf. On va parler de ça parce que c'est en ce moment. Rory McIlroy va conserver sa veste verte au Masters d'Augusta, sa couronne. J'y crois pas, Bennett.
J'y crois, mais ça va être
Simon,
très tendu.
J'y crois. Pascal,
je peux changer parce que j'avais dit j'y crois, mais j'ai envie de dire j'y crois pas là.
Jérôme.
Moi, je suis entouré de spécialistes qui disent y croient, donc j'y crois, évidemment.
Le Nord irlandais.
Arrêtez, je suis une pince.
Vous savez, juste pour ceux, les auditeurs et auditrices qui connaissent pas, le Masters d'Augusta, c'est l'équivalent de Wimbledon, en fait. C'est le grand majeur, le plus mythique, de par son histoire, de par le trophée qu'il offre. Le Nord, c'est très réducteur de dire ça, mais c'est au moins ça pour que vous compreniez. Le Nord irlandais, donc McIlroy est leader avant la dernière journée, mais il est désormais à égalité avec l'États-Unien Cameron Young. Moins 11 sous le par. Ça s'est resserré derrière lui, alors qu'il avait 6 coups d'avance sur le second hier matin, Bennett. McIlroy, qui avait fin du jeu l'année dernière en gagnant.
Ouais,
c'est compliqué.
Ouais. Compliqué. Il est rattrapé un petit peu aussi par le
dans le poids de l'histoire, il n'y a que trois golfeurs qui ont conservé leur titre au Masters. C'est Ballesteros, non, Nicklaus, Faldo, Tiger Woods. Donc c'est quand même ça place l'exploit dans lequel il essaye de réaliser. Et puis bah derrière, hier il y a deux trois joueurs qui ont joué extrêmement bien. Lui, il était dans une journée difficile. C'est ce qui fait que ça s'est resserré et qu'il y a six ou sept mecs qui peuvent gagner ce soir.
Simon.
Oui, ça va être compliqué, j'y crois, mais va-t-il le faire ? C'est une autre histoire. Hier, il part avec 6 coups d'avance, tu l'as souligné. Je crois que dans le top 20, ils sont deux à avoir joué au-dessus du par. Il finit avec un coup de moins que son score au départ du troisième tour. Bon, il est quand même libéré d'une pression. Je pense que là où il aurait encore explosé dans des proportions beaucoup plus spectaculaires hier, il a réussi à garder ses nerfs et à laisser passer l'orage. Donc il fera peut-être pas une aussi mauvaise partie ce dimanche qu'hier, mais ça a joué très très fort derrière lui. Il y a beaucoup de gens qui veulent lui piquer sa veste verte, donc ça va être passionnant en tout cas cet après-midi et ce soir.
Et voilà pour le Masters d'Augusta. Franchement, si vous avez l'occasion, vous connaissez pas très bien le golf, c'est l'occasion de regarder parce que c'est un événement somptueux, évidemment mythique dans l'histoire du sport, hein, en général, pas seulement dans le golf. Allez les grandes gueules du sport, on revient dans un instant dans le vestiaire, on va parler de la gestion de la colère, alors que Medvedev s'est un peu énervé encore cette semaine, mais on va voir comment vous faites vous et quels conseils vous avez peut-être pour nos auditeurs et auditrices face à ça. Et puis on va parler aussi d'Alcaraz Sinner, évidemment. Est-ce que cette finale peut laisser des traces en vue de Roland Garros dans un mois et demi? On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.